C'est Bruno Canard que l'on retrouve pour l'émission Écriture dessinée. Bonjour Bruno.
Bonjour Fabien. Eh oui, c'est la reprise. Alors aujourd'hui, je vais démarrer avec un hommage à André Juillard qui est décédé à la fin du mois de juillet de cette année. Et c'est un auteur qui a démarré dans les années 70, à un moment où la bande dessinée n'avait pas du tout le même visage qu'aujourd'hui. Il y avait à peu près 700 nouveautés par an. Ça n'avait rien à voir, le manga n'avait pas encore déferlé, et il y avait l'empreinte forte de revues comme Tintin et Spirou, qui étaient des revues tout public, et puis dans les années 70 sont arrivés aussi des journaux plus adultes comme Métal Hurlant, L'Écho des Savanes, Fluide Glacial. C'est une histoire qui est connue. Alors, dans cet hommage, j'ai repris des entretiens que j'avais faits avec André Juillard dans ces années-là, c'est-à-dire fin des années 70, début des années 80, où l'auteur apprenait son métier. Et ça, c'est vraiment une chose assez essentielle et qui fait que finalement, André Juillard a gardé cette humilité, cette critique exigence envers lui-même et qui fait qu'il est devenu un des très grands auteurs de la bande dessinée avec ce dessin qui est d'une ampleur assez rare. On retrouvera donc André Juillard autour de 14h15. Mais pour l'instant, c'est le retour du générique. Écriture dessinée. C'est souvent que je me pose la question, bon, le générique, ça fait quand même quelques années que il est là, est-ce que je vais pas en trouver un autre et tout, et puis Tom Waits, mais je garde Tom Waits. Bon, voilà, c'est comme ça, en tout cas, c'est reparti pour un an avec Tom Waits. C'est un morceau qui est extrait de son album Mules Variations. Je prends des risques. Alors, une brève, qui concerne également Alain Juillard. Il y a une exposition d'illustrations, de dessins, qui est faite à Tréguier dans les Côtes d'Armor. C'est à côté. Elle se termine samedi, le 22, mais bien sûr, vous pourrez y aller. Mais en tout cas, c'est là qu'il avait choisi de s'installer en 2020 avec sa femme Anne. Et donc, il y a cette exposition qui se déroule jusqu'à samedi. Mais je vous cache pas que moi, j'aurais sacrément eu envie de pouvoir y aller, mais impossible. Mais voilà, vous le savez. Première virgule, les Chaloques. Alors, pour les livres qui vont encadrer cet entretien, ces extraits d'entretien d'André Juillard, j'ai choisi trois livres dont la couleur est un aspect essentiel, puisque, il le dit lui-même, la couleur est ce premier élément que très souvent le lecteur va ressentir. Donc une ambiance colorée va vraiment avoir une importance grande. Et donc, il y a trois utilisations de la couleur qui sont préconvoquées pour cette émission. Et je vais commencer par le récit de Marc Dubuisson, qui est un livre, un recueil d'histoires courtes, et ça s'appelle Les Envahisseurs. Alors, c'est un jeu de mots qui n'est pas anodin parce que là, les envahisseurs sont considérés comme des migrants, c'est des cosmigrants. Et on retrouve cette ambiance et cette approche qu'il y a eu, par exemple, dans le film de Neil Blomkamp, District 9, où les extraterrestres étaient parqués dans un ghetto en Afrique du Sud avec leur vaisseau qui stationnait au-dessus du camp, mais eux étaient coincés et partageaient la ségrégation d'autres membres du ghetto. Alors, il y a dans l'approche de Marc Dubuisson cette façon, effectivement, de considérer les migrants, les extraterrestres comme des migrants. Et donc, il va y avoir une position qui va être prise par les différents interlocuteurs, puisque immédiatement, Marc Dubuisson fait de ces extraterrestres qui arrivent sur notre Terre des personnages qui vont être interpellés, accueillis, regardés, avec qui on va discuter, avec qui on va faire des confrontations, avec les politiciens, avec un ensemble de réactions qui vont se matérialiser dans chacune de ces histoires courtes. Alors, ces migrants, eh bien, ce ne sont pas n'importe lesquels, ce sont les migrants de la planète Mars 843. Ils débarquent sur Terre car ils ont un message à délivrer qui est tiré de leur expérience. Ils viennent nous avertir que la vie sur Terre court à sa perte si rien ne change. Mais ils se retrouvent parmi les humains et découvrent alors un paramètre qu'ils ignoraient, à savoir les limites de l'intelligence de cette espèce animale. Et c'est le côté très astucieux de ce livre, Les Envahisseurs, parce que Marc Dubuisson, pour évoquer toute la situation aujourd'hui de notre Terre, cette question de transition écologique, de pollution, d'effondrement, comme on le caractérise parfois, il y a donc toutes ces approches, tous ces thèmes de ces débats contemporains, notamment sur l'écologie, vont être vus à travers le prisme de cette migration d'un nouveau genre, celle donc d'extraterrestres, qui sont là de manière fraternelle pour transmettre un message en disant « il faut faire quelque chose ». Donc, dans chacune de ces histoires, en fait, Marc Dubuisson montre ce que représente l'inaction, la conscience mais on ne fait rien, l'instrumentalisation politique, la récupération avec l'extrême droite qui va s'emparer de ce sujet et en l'utilisant pour faire valoir un ensemble d'idées, d'idéologies nauséeuses. Et donc là, le simple décalage avec la présence de ces extraterrestres, eh bien, marche à merveille. Alors, Marc Dubuisson a un trait fin, simple. Il a choisi de garder une petite taille à ses personnages. C'est des histoires en 6 cases identiques, avec donc ces extraterrestres immédiatement reconnaissables et qui sont nommés par des numéros et qui rappellent aussi cette situation des migrants qui sont parqués sans aucune humanité. Il y a donc une utilisation de la couleur qui va distinguer chacune des histoires, qui va donner une tonalité avec à chaque fois un grand espace pour permettre au dialogue de trouver toute leur place. Il y a cette utilisation du dialogue qui va parfaitement avec chacune des situations et qui permet à Marc Dubuisson d'approfondir véritablement chacune des situations et ainsi composer un ensemble qui permet de mesurer et de comprendre, de confronter cette situation de notre terre avec celle qu'évoquent ces envahisseurs. C'est une réussite et en tout cas une utilisation de la couleur qui permet à l'humour d'avoir toute son ampleur. Les envahisseurs est un livre de 64 pages qui est publié par les éditions Delcourt dans la collection Patakès qui est dirigée par James. Marc Dubuisson avait déjà publié dans la collection et notamment un livre, un recueil aussi avec un titre étonnant, à peu presque. Ça marche à fond. Son prix est de 13,50 €. Une dernière information, parce que c'est important, c'est le lieu d'impression du livre, parce que bien l'évasion ou la concurrence avec d'autres pays de l'espace européen qui cassent les prix et qui mettent en danger les imprimeurs, aussi bien en France qu'en Belgique, eh bien, les envahisseurs a été imprimé en Belgique. Deuxième virgule, les moustiques. Alors, je voudrais poursuivre cette exploration de la couleur narrative, la couleur dans la bande dessinée, avec le livre Pudzi, qui est sorti au début de l'été, qui est signé Louison pour l'adaptation, la mise en scène, le dessin et la mise en couleur, et qui est adapté d'un livre de Thomas Snegaroff, un roman. Le romancier a participé à cette adaptation et donc mentionné au générique, en tout cas à la liste des auteurs de l'ouvrage. Alors, lorsqu'on feuillette, immédiatement, on repère ce travail de couleur très tranché, avec un noir et blanc puissant, où le noir a une présence forte, et Louison, dans sa mise en image, va utiliser différentes couleurs pour compléter le noir. À chaque fois, il n'y aura qu'une seule couleur qui sera conviée, un vert plutôt plutôt foncé, un rouge intense, un ocre, et c'est avec cette palette réduite, il y a parfois un bleu ciel légèrement violacé, et à chaque fois, on a donc ce côté très tranché de la mise en image avec un trait noir puissant. Alors Pudzi, eh bien, on le voit immédiatement en couverture, il y a le portrait d'Hitler et un homme qui est devant lui et qui tient son chapeau. Alors, Pudzi, c'est un personnage, alors est-ce un monstre, est-ce un clown, est-ce qu'il faut choisir? C'est un homme qui mesurait 2 mètres, qu'on surnommait Pudzi, qui veut dire « petit bonhomme ». Pudzi est un marchand d'art dans le New York bohème des années 1910. Il est musicien et son nom, son véritable nom, c'est Ernst Stengel. Il va devenir 10 ans plus tard le confident et le pianiste d'Hitler. Cet homme est un excentrique, il est fasciné par le chef des nazis à qui il offrit de l'argent, notamment pour remettre à flot l'organe de presse du mouvement, le Volkischer Beobachter. Sans le soutien de Pudzi, le Führer ne serait sans doute jamais devenu celui qu'on connaît. Il va d'ailleurs faire rencontrer la famille Wagner à Hitler. C'est un homme qui rivait d'honneur et d'une alliance entre l'Allemagne et les États-Unis. Et ce sont ces deux patries. Il va être nommé responsable de la presse étrangère du Troisième Reich en 1933. Il a cru à son destin. Il est jalousé par Goebbels et Göring, puisque c'est un très proche d'Hitler. Et il n'obtint en retour que la disgrâce. Son incroyable exil va le conduire au président Roosevelt, qui va en faire son principal informateur sur le Führer. C'est un traître pour les uns, un bouffon sans conséquence pour les autres. Il est et il fut pourtant un artisan du mal. Donc Louison est une autrice qui a déjà œuvré et qui, en tout cas, dans cette carrière d'autrice, va avec Puzzi vraiment montrer cette écriture de parti pris qui permet au récit d'avoir tout de suite une dimension particulière. Donc, elle a choisi d'être au plus près de Puzzi tout au long de cette histoire, où il est très présent dans chaque case, avec des plans souvent rapprochés. Et cette présence aussi est souvent accompagnée de celle d'Hitler que l'on va voir finalement grandir, comme s'il était enfant au début et que Puzzi permettait au Führer de prendre un peu plus d'ampleur. Il y a donc un découpage qui reprend celui du roman avec donc les étapes de cette biographie, de cette chronologie de la vie de Ernst Anstengel. Et on n'est jamais... On n'est jamais impartial, finalement, et à chaque fois, le dessin et la mise en scène de Louison nous amènent systématiquement à réagir, à confronter notre connaissance du Troisième Reich, de la vie d'Hitler, de la connaissance plus profonde de l'idéologie nazie, et à chaque fois, eh bien, cette connaissance va s'enrichir des éléments que la biographie de Puzzi va apporter. Le découpage des scènes est d'une grande précision aussi, puisque Louison facilement va éviter une sorte de narration case par case assez chronologique, mais au contraire va plutôt utiliser différents éléments pour faire sens par un effet de synthèse, et donc on va avoir du temps qui va s'écouler facilement entre les différentes images, comme si l'illustration était conviée autant que la bande dessinée classique. Et on a donc ce temps important qui s'écoule entre chaque image et qui fait que cette narration est tout à fait inhabituelle et très adaptée à ce thème. C'est un livre qui va surprendre dès qu'on le feuillette, on est étonné par ses partis pris, par cette façon de dessiner, par ces gros plans importants, par ce choix de certains détails dans la case, par ce trait de pinceau puissant, élégant, et puis cette utilisation de la couleur inhabituelle. Donc, Puzzi tient pleinement ses attentes et en tout cas répond à la surprise que l'on a pu avoir et montre que justement la bande dessinée c'est une écriture et que le choix simplement par un rapport au trait habituel et qui fait qu'on peut avoir un ensemble de bandes dessinées qui auront toutes à peu près la même déclinaison graphique. Là, avec le travail de Louison, on a une approche différente et qui montre l'incroyable diversité de l'écriture en bande dessinée. Donc Pulzi de Louison et de Thomas Negorov, adapté donc de son roman, est publié par les éditions Futuropolis, et les 142 pages de cette biographie dessinée est au prix de 22 €. Là aussi, pour l'imprimeur, eh bien, le livre a été publié, imprimé en France. Musique avec l'invité musical qui est Madeleine Perroux et son dernier album « Let's Walk ».
You violate me, I feel you hate me, you say it's nothing personal, you break into me, take and undo me and say it's nothing personal.
André Juillard, décédé à l'âge de 76 ans, aura marqué la bande dessinée par l'ampleur de son œuvre et l'exigence de ce dessinateur qualifié de réaliste. Ce qui ressort des deux entretiens audio réalisés dans la première partie de sa carrière, c'est l'apprentissage du métier de dessinateur de bande dessinée. Formé aux arts décoratifs de Paris, puis auditeur des cours de dessin de Jean-Claude Mézières et Jean Giraud à Vincennes, il fait ses débuts dans différentes revues des éditions Bayard, Formule 1, Jean, et puis aussi dans Pif Gadget. Les aventures chevaleresques de Bohémond de Saint-Gilles révèlent déjà l'exigence de l'auteur dans sa confrontation avec la gestuelle, la couleur, la mise en scène. Il affirme le choix de la lisibilité avec un trait précis, régulier, près des corps, qui définit chaque surface en fermant le trait. Première rencontre avec André Juillard avec ses 30 entretiens de 1981, l'année de la sortie du film de Jean-Loup Hubert, l'année prochaine si tout va bien. Le premier album des 7 vies de l'épervier sort en 1983.
En fait, j'ai débuté dans Pif avec Patrick Otias sur à peu près le même personnage. Donc simplement, au bout de quelques temps, on s'est aperçu, d'abord, ça n'avait pas l'air de plaire énormément à la rédaction en place. Et ensuite, il y a eu des remaniements, ils ont transformé le journal, donc ils ont bazardé un certain nombre de séries, dont la nôtre. Et ça tombait bien, on avait justement envie de... On commençait à se sentir à l'étroit, disons... dans le cadre des récits complets en 10 pages où il n'y avait pas moyen de développer une histoire correctement. Et d'autre part, comme on était frustrés de ne pas, disons, utiliser le personnage autant qu'il le mériterait, on a profité de l'occasion pour aller proposer nos services ailleurs avec le même type de personnage, disons s'adressant à un public plus large. Et parce qu'à PIF aussi, on était aussi limité par les problèmes de lecteurs très précises, 8-12 ans, qui nous apportaient beaucoup de contraintes. Donc on est parti, on a été proposé nos services à Circus avec cette série, cette vie de l'épervier.
Et bon, entre-temps, avant d'attaquer les 7 vies d'épervier, de Bohémond de Saint-Gilles, parce que c'est quand même une série qu'on a découvert et finalement que beaucoup de gens découvrent que maintenant. Comment ça se fait? Parce qu'il y a quand même pas mal de temps qu'elle a débuté.
C'est-à-dire que oui, la publication de Bohémond de Saint-Gilles remonte maintenant à 6 ou 7 ans. Dans l'un des journaux de Fleurus qui a disparu depuis, qui s'appelait Formule 1. À l'époque, Fleurus, les éditions Fleurus n'avaient pas une politique d'art. Et d'autre part, moi, comme j'étais débutant, j'étais pas tellement pressé de voir sortir des albums que je trouvais assez imparfaits. Alors finalement, ça a traîné un bon moment avant que cette série sorte en album. Au moment où le premier épisode est sorti en album, il y en avait 4 qui avaient été dessinés dans le journal. Ce qui m'attire au départ, c'est le Moyen-Âge, parce que mon enfance a été bercée par des récits moyenâgeux. J'avais un grand-père qui était militaire et qui passait ses loisirs à écrire des romans de chevalerie et qui me les racontait. Il me fabriquait des armes, des épées, des boucliers, des trucs et des machins. J'ai gardé de cette époque-là une forte tendance pour le Moyen-Âge. Et c'est par hasard que, beaucoup plus tard, donc, Claude Verrien m'a proposé un scénario de bande dessinée qui se déroulerait au Moyen-Âge. Et c'est également un hasard si, avec Didier Convard, on a fait les Cathares. Le rédacteur en chef de Jean, un autre journal des éditions Fleurus, pour les filles celui-là, désirait axer tout un journal sur le midi de la France, enfin la région toulousaine, et il avait pensé à consacrer un numéro du journal au Qatar. Nous, on lui a proposé de faire une bande dessinée là-dessus, parce que ça nous intéressait. Mon collègue Convard avait dans le temps et il avait avec des amis fait une pièce sur les Qatars déjà, donc il connaissait un peu la question, parce que le Moyen-Âge, lui, c'est pas sa spécialité, moi non plus d'ailleurs, mais enfin j'ai peut-être un goût plus fort que lui à l'époque. Et bon, moi j'étais tout à fait partant. À l'époque, on travaillait ensemble sur une série pour les filles. Et donc, on a fait cette histoire. Mais enfin, c'est une histoire sans lendemain. Mais enfin, ça entrait dans nos goûts à tous les deux.
Les sept vies de l'Épervier, sur le plan graphique, c'est quand même autre chose que Bohémond de Saint-Gilles. Dans Bohémond de Saint-Gilles, il y a des personnages aux traits un peu plus secs. Tandis que dans les sept vies de l'Épervier, il y a une souplesse du trait extrêmement douce, extrêmement agréable. Pourquoi ?
Il s'est passé quand même 6-7 ans avant les premiers épisodes de Bohémond et les sept vies de l'Épervier. Depuis, j'ai fait quand même quelques progrès. À l'époque, je débutais. Je suis venu à la bande dessinée assez tard. Et j'avais tout à apprendre là-dedans. J'avais pas un trait de bande dessinée. J'ai essayé de me mettre au pinceau. D'ailleurs, on voit ça dans le premier épisode de Bohémond. Et trois ou quatre premières pages sont faites au pinceau. J'ai attrapé des crampes. Je trempais mes pages de sueur tellement je n'arrivais pas à m'habituer à cet instrument. Ensuite, j'ai donc adopté assez rapidement la plume. Et à la plume, au départ, j'osais pas appuyer dessus. J'avais peur de la casser. Ce qui fait que j'avais un trait assez, un peu raide, un peu dur, quoi. Bah, depuis, je m'y suis habitué un peu. Alors, ça peut expliquer la différence.
La couleur dans cette série prépubliée dans Circus donne une ambiance très forte. C'est vous qui faites les couleurs ?
Oui. Alors ça, c'est un autre problème avec Bohémond, c'est que, problème technique, à l'époque on faisait les couleurs sur Bendel, c'est-à-dire on donnait des indications de couleurs assez frustes sur un calque, et à l'imprimerie, il y avait un type, je sais pas exactement comment ça se passe, qui interprétait ça à la gouache et tout, enfin. Bon, c'était imprimé, c'est toujours imprimé d'ailleurs, en Italie. Il n'y avait pas un contrôle énorme sur ce qu'il faisait, et en fait c'était complètement salopé, enfin, à mon avis. J'étais un peu dégoûté par ça, donc j'ai pas forcé sur les couleurs à cette époque-là. Mais pour moi, la couleur est primordiale. Je trouve que l'impact premier d'une image en couleur, c'est son type de couleur. À mon avis, j'ai toujours été, enfin, personnellement, très sensible à la couleur dans la bande dessinée. Je suis pas très sensible à la bande dessinée en noir et blanc, sauf quelques rares cas qui manient ça avec prodigieuse habileté. Les Américains surtout, je trouve. Et puis, d'autre part, mon dessin se prête à la couleur. C'est un dessin que j'essaye d'être le plus clair possible, avec un trait qui définit complètement les surfaces. Donc, en fait, je travaille uniquement en fonction de la couleur. On travaille assez près l'un de l'autre. Donc, on parle beaucoup de cette série. On la voit presque complètement en détail pour 4 ou 5 épisodes. Enfin, on voit vraiment ce qui va se passer. Après, je ne sais pas exactement. Et d'autre part, j'ai un autre projet avec Jacques Martin, qui a des scénarios plein les tiroirs. Et en particulier, il a en tête une série qui se passerait, qui suivrait en fait toute la carrière de Bonaparte et de Napoléon. Donc, ce serait une histoire feuilletonesque avec des sociétés secrètes, des trucs à la Eugène Sue. Et en principe, peut-être, ça devrait sortir chez Glénat normalement d'ici la rentrée, enfin, je pense, à l'automne.
Votre documentation est importante pour Bohémond, tout ça. Comment ça se passe ? Ça peut être très facile à trouver quand même.
Pour Bohémond particulièrement, c'est une époque où la documentation directe, c'est-à-dire les documents d'époque, est assez difficile à interpréter. C'était une époque où l'art était assez symboliste. On a les costumes. Enfin, il faut vraiment être un spécialiste. Moi, j'ai du mal. Alors, pour cette époque, j'utilise ce qu'ont fait d'autres chercheurs. Ça va être de Viollet-le-Duc à des gens qui ont écrit fait des histoires du costume ou de l'architecture, des choses comme ça. Par contre, pour les sept vies de l'Épervier, alors là, on a des grands peintres comme Latour ou Le Nain. On a des graveurs comme Jacques Callot on peut se servir de Google ou enfin. Alors là, la documentation, on peut avoir accès à la documentation directe. C'est-à-dire, ça, c'est assez passionnant. Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant que d'aller rechercher des travaux qui ont été déjà faits ou des travaux qui ont été copiés sur des travaux eux-mêmes copiés sur des travaux qui datent du 19e siècle. Je trouve ça beaucoup plus passionnant de chercher la documentation directement dans l'iconographie de l'époque.
Il y a eu un film qui est sorti l'année prochaine, si tout va bien, où on voyait des illustrations d'André Juillard. Et c'était finalement la création d'une bande dessinée. Est-ce que vous l'avez fait pour cela ou simplement pour le plaisir ?
Je l'ai fait parce que le metteur en scène du film était un ami, et toujours un ami d'ailleurs, qui a fait de la bande dessinée également à Fleurus, aux éditions de Fleurus, et puis qui écrivait des scénarios de films. Et, bon, il a réussi à placer celui-là, il a fait le film, et il avait besoin pour ça, un film assez autobiographique, disons, et il avait besoin pour ça de planches de bande dessinée, parce qu'on voit à un moment le personnage travailler. Donc. Et puis, il avait envie d'agrémenter son film de dessin. Je me souviens plus exactement ce que j'avais fait. Je crois qu'il y avait le dessin du générique. Quelques dessins par-ci, par-là. On se connaissait, il m'a demandé de faire les dessins, c'est tout.
Mais il y a une ambiance très science-fiction. Ça ne va pas te donner des envies pour l'avenir, faire une histoire plus SF
Pas tellement, parce que... Je crois que si je faisais de la science-fiction, je serais trop influencé par ce que fait Moebius. D'ailleurs, ses dessins étaient assez influencés, je trouve, enfin, au niveau graphique et tout. Alors, plutôt que de marcher sur des brisés qui sont quand même un peu durs, non, j'aime autant rester dans mon domaine. Après, c'est ce que je sais faire.
Prospects
were exciting and promises true and sure, I'd never have to worry
she
no more. But then I'd be in heaven wondering what the worry was for.
De cette période, André Juillard dessine la série Arnaud, scénarisée par Jacques Martin, l'auteur d'Alix et de Lefranc principalement. Les premières planches marquent un rapport aux décors différents. Ils sont saturés de détails, contrairement aux Sept vies de l'Épervier, où la couleur s'exprime avec plus d'intensité. Retour avec André Juillard sur cette rencontre qui n'a pas été sans mal.
Dans les locaux des humanoïdes associés, par l'intermédiaire de Jean-Pierre Dionnet, Jacques Martin cherchait des dessinateurs, enfin un dessinateur réaliste, parce qu'il a des scénarios à revendre, enfin il en a plein ses tiroirs, et il avait notamment un scénario sur le consulat et l'Empire. Et bon, Dionnet a dû lui montrer un certain nombre de dessins, de dessinateurs réalistes, et c'est moi qui gagne ce petit concours. Et à partir de ce moment-là, bon, à l'époque, on coupait l'un et l'autre, mais dès que j'ai eu un moment, je l'ai recontacté et on s'est vu assez rapidement. Et là, il m'a expliqué qu'il comptait raconter l'histoire d'un personnage qui suivrait toute la carrière de Bonaparte, qui deviendra assez rapidement Napoléon Ier. Et donc, surtout de montrer cette époque qui n'a jamais été, ou pratiquement jamais été, montrée en bande dessinée. Il y a bien un précédent de Jacques Lodi, mais c'est dans des temps héroïques.
Et comment donc avez-vous reçu ce scénario? Quelles modifications avez-vous eu envie d'y apporter, ou au contraire ça a collé tout de suite?
Ça a collé pas mal parce que Jacques Martin connaît bien son boulot. La seule chose, c'est que j'étais un petit peu décontenancé par rapport à sa manière de travailler. Avec Patrick Cottias pour Les Sept Vies de l'Épervier, par exemple, j'ai un texte entièrement écrit où j'ai une description plus ou moins abondante des séquences que je dois dessiner, alors que Jacques Martin me livre un scénario dessiné, c'est-à-dire sur une feuille de papier, il esquisse les situations, et à moi de me dépatouiller avec ça, et à côté un texte écrit. Donc j'ai ressenti pendant tout cet album une certaine contrainte à avoir un cadre aussi étroit pour dessiner le scénario de Jacques Martin. Bien que Jacques Martin ne m'impose rien, sauf bien sûr de respecter son scénario, ses indications graphiques, il me le dit à chaque fois qu'il en a l'occasion, sont des indications, je peux les modifier, c'est pas une mise en page définitive, je peux travailler dessus, l'adapter ou la modifier. Malgré tout, cette façon de travailler me gêne un petit peu, mais je pense que ça va aller, d'une part en connaissant mieux Jacques Martin, et d'autre part, en évoluant dans la série, je vais me décontracter.
La période des années 80 et cette transition entre une bande dessinée asexué des journaux Tintin et Spirou. Dans ce dernier, par exemple, un dessinateur était chargé de rallonger les jupes quand celles-ci étaient jugées trop courtes. Jacques Martin incarnait cette bande dessinée classique en recherche de plus de liberté.
Mais je crois que, bon, on a pu le voir dans Alix, depuis quelque temps, il m'a semblé que Jacques Martin était un petit peu à l'étroit avec la espèce de, peut-être pas de censure, mais d'obligation vis-à-vis d'un certain public. Il y a eu des épisodes d'Alix où il décrivait des orgies, il était obligé de cacher ceci ou cela, enfin manifestement il n'était pas à l'aise. Je crois que là, il espère un public un petit peu différent, bien que le souhait de Martin, c'est de toucher un grand public. Il ne veut pas faire de la bande dessinée pour adultes exclusivement. En fait, je crois qu'il y a plus grand monde qui va lui faire de la bande dessinée pour adultes. Je pense continuer Bohémond de Saint-Gilles sur des scénarios de Patrick Cotias. Bohémond de Saint-Gilles pêchait jusqu'ici d'une part par le dessin, parce que j'ai appris le métier dans cette série, donc c'était pas vraiment toujours très, très maîtrisé, et d'autre part par le scénario, parce que je l'ai fait en partie, et j'avoue que d'une part j'ai pas eu le temps de m'y consacrer vraiment, et en plus j'ai pas vraiment réussi dans ce domaine-là. Je me réserve pour plus tard peut-être le temps de faire moi-même mes scénarios, parce que je crois que tout auteur pense que c'est quand même la solution la plus agréable, sinon la plus efficace.
Il y a eu le tirage de tête d'Arnaud. Qu'est-ce que ça représente ?
Ça représente pas énormément pour moi, dans la mesure où je ne suis pas persuadé que ce tirage de tête, qui est un tirage en grand format des planches en noir et blanc, je suis pas sûr que mon dessin soit fait pour le noir et blanc. En tout cas, je le conçois, quand je le fais, je le conçois essentiellement pour la couleur. Donc, je suis pas vraiment convaincu que ce soit quelque chose de parfaitement réussi, ce tirage de tête. Mis à part le fait que c'est bien imprimé, qu'il est bien fait en lui-même.
Avec Jacques Martin, il y a déjà plusieurs scénarios avancés ou c'est toujours en gestation ?
Avec Jacques Martin, en fait, récemment, je l'ai appelé pour lui demander s'il avait pas par hasard le titre du prochain épisode pour marquer au dos de l'album, du premier. Et il m'a dit « Attends, je te rappelle dans 10 minutes ». Et il m'a livré 5 titres, les 5 prochains titres de la série. Donc, avec lui, on part pas sans biscuit. Il sait parfaitement où il va. De toute façon, il est facile de prévoir on va suivre la carrière de Napoléon et en gros les grands événements de sa vie. Donc le prochain épisode se passera pendant la campagne d'Égypte, après il y aura le 18 Brumaire et puis le couronnement. Enfin, mais Jacques Martin, de toute façon, il voit très loin, lui. C'est-à-dire une vingtaine, une trentaine d'albums.
Votre graphisme a énormément évolué depuis le premier Bohémond. Comment regardez-vous celui qui est actuellement, que l'on trouve dans Arnaud, que l'on trouve dans les Servier? Que voulez-vous y apporter de plus?
Ce que j'aimerais y apporter de plus, c'est un grain de fantaisie. Je le trouve un petit peu trop classique à mon goût. Donc il faudrait que je puisse un peu, m'éclater, disons. Pour le moment, je suis assez prisonnier. Bon, c'est mon tempérament, de toute façon, mais j'aimerais bien... je suis un petit peu en retrait par rapport à toutes les éloges qu'on peut me faire sur mon propre travail. J'accepte les éloges, je trouve ça très très agréable. Je ne vais pas cracher dessus, loin de là. Mais quand même, j'espère faire mieux.
Merci.
Et André Juillard a continué de faire mieux. Si Arnaud s'arrête après 6 volumes, Les 7 vies de l'épervier deviendra une série phare dans l'œuvre de l'auteur. Masque rouge, autre héros masqué, la complétera. Avec Le cahier bleu, André Juillard écrit sa propre histoire. s'attache à un personnage féminin. Son style n'a cessé de se préciser. Chaque zone du dessin est tracée avec une ligne fermée. Elle reçoit la couleur. Chaque image, tout en s'inscrivant dans la continuité d'un récit, est peaufinée, d'une lisibilité totale. La précision de la gestuelle complète ses caractéristiques. André Juillard semble un dessinateur complet. Pour autant, le cahier bleu marque une évolution profonde. André Juillard se confronte au noir, aux aplats noirs, marquant non seulement la couleur, les vêtements, mais aussi les ombres. Ce qu'il avait toujours évité anime la page, apporte une amplitude, une profondeur au récit. Après avoir décliné la réalisation du second tome des trois formules du professeur Sato à la fin des années 80, en 2000, il reprend avec Yves Saint au scénario une aventure de Black et Mortimer, la machination Voronov. Une reprise pleinement convaincante qui transmet l'enthousiasme du dessinateur à mettre en image ces héros de Jacobs qui semblent être ses amis de toujours. Signé Ulrich, le dernier titre dessiné par André Juillard sortira au mois d'octobre. Pour terminer ce hommage, je voudrais évoquer le croquis, le dessin, une activité permanente d'André Juillard pour poursuivre son apprentissage, explorer de nouvelles techniques, expérimenter de nouveaux papiers, des formats différents, dessiner l'intime, exprimer par un simple trait l'intensité du modèle. Deux livres rendent compte de cette pratique quotidienne, Entr'acte et Carnet secret 2004-2020, tous les deux publiés aux éditions Daniel Maguen. André Juillard restera un des très grands auteurs et très grands dessinateurs de la bande dessinée.
Let's walk,
let's walk, let's walk, let's walk,
let's roll,
let's roll, let's roll, let's roll.
Let us advance our mortal bodies up where our hearts and minds will go. Let's leave,
let's be, let's be, let's be,
and be whole.
Je voudrais terminer cette émission avec Iranienne, qui est un roman graphique d'Éric Darbré, Aran de Shaddad et Zeynab Faziki. C'est un livre sur l'Iran d'aujourd'hui, sur la révolution féministe, la contestation féministe et populaire d'aujourd'hui. Alors, des livres sur l'Iran, il y en a eu plusieurs. Persepolis vient tout de suite à l'esprit, mais il y a eu par exemple Zahra Paradise de Amir et Khalil qui traitait de la situation en 2009 en Iran, qui a été à Téhéran notamment, où les manifestations ont été massives. Et puis il y a eu Né en Iran de Majid Bita qui montrait aussi l'évolution politique à travers les regards de l'auteur enfant. Iranienne est une histoire vraie, celle d'une femme à Téhéran en quête de liberté. Alors quand on feuillette iranienne, on voit tout de suite un parti pris du dessin, de la couleur, extrêmement marqué. Cette couleur qui n'est pas réaliste, qui va au contraire jouer sur les contrastes avec une distance évidente sur l'arrière-plan, sur les cieux qui sont pas toujours bien bleus, et donc on va avoir vraiment une dynamique de la couleur à l'œuvre dans ce livre. Alors, le récit d'Iranienne, eh bien, c'est l'histoire de Raya qui étudie dans un établissement supérieur privé pour filles, qui est issue d'un milieu intellectuel de la petite bourgeoisie. Elle va dénoter d'ailleurs au milieu des enfants de l'élite économique et politique nationale. C'est une bonne élève, elle est intelligente, cultivée, mais elle ne parvient pas à s'intégrer dans cet univers codifié où les jeunes filles n'aspirent qu'à réussir leur mariage avec un fils de bonne famille, faire des enfants et dépenser un maximum d'argent. Elle se sent différente, notamment parce qu'elle est lesbienne. En révolte contre le système entier qui régit son pays, Raya va braver tous les interdits, l'alcool, la drogue, le sexe, le rock, et surtout, elle va refuser de se marier. Petit rappel, en Iran, l'homosexualité, l'alcool et la drogue sont des pratiques interdites qui peuvent mener à la peine capitale, et Raya devra-t-elle donc se résoudre à fuir ce pays qu'elle aime tant, plutôt que de se renier elle-même. Et se renier elle-même. Alors, il y a dans la construction de ce roman graphique, Éric Darbré, qui est journaliste d'investigation depuis 25 ans, aussi bien en France qu'à l'étranger, et il est également donc scénariste de bande dessinée. Zeynab Faziki, elle est une dessinatrice féministe et activiste marocaine. Elle est également autrice et elle a un compte Instagram qui fonctionne très bien. Et puis, elle a reçu en 2022 un prix. Je ne sais pas si toutes les autrices ont envie de l'avoir. Ça s'appelle le prix Kouyoku et qui est décerné à une artiste dont l'œuvre fait preuve de courage artistique dans le pays d'origine. Et puis, il y a une troisième personne qui est Aran de Shaddad, puisque c'est son histoire qui va être racontée à travers les échanges qu'elle a eus avec Éric Darbré et Zeynab Faziki. Donc c'est une réelle prise de risque pour que Aran de Shaddad puisse publier cette histoire. Comme je l'ai dit dans le résumé du livre, il y a vraiment donc une intensité, une réalité. On est vraiment dans cet Iran contemporain. La fin du livre est marquée par la mort de Mahsa Amini, qui donc s'intègre dans ce récit. Et donc, à tout moment, on prend la mesure et la dimension de ce qu'est résister dans un pays où la révolution islamique a laissé le pouvoir aux religieux intégristes. Il y a donc dans le récit, qui est un récit d'ampleur, il fait 144 pages, la découverte de Raya, donc comment dans son école elle va montrer sa radicalité, ne pas avoir peur de s'opposer, utiliser de la provocation, se retrouver en opposition avec sa mère pour cette façon de s'affirmer libre, alors que justement il est impossible de le faire en Iran et on risque sa vie. Et c'est donc le cas aussi de Aran de Shaddad. La couleur est essentielle. Il y a cette façon d'utiliser des couleurs très tranchées, très contrastées pour mettre en avant ces présences des personnages, les différents protagonistes de cette histoire, et les décors vont être complètement esquissés, simplifiés, pour que vraiment on soit dans le récit de Raya et de toutes les personnes avec qui elle lie amitié, mais aussi avec lesquelles il y a de nombreuses confrontations. C'est un récit d'une grande intensité et qui mérite vraiment qui mérite votre lecture, parce que des livres sur l'Iran récents, des romans graphiques sur l'Iran récent, ben, il y en a très peu, trop peu, alors que la résistance de ces femmes est exceptionnelle. Iranienne, de Eric Drabré et Zainab Faziki, avec un récit de départ de Haran de Shaddad. C'est publié par les éditions Marabule. Les 144 pages sont au prix de 24 €, et j'ai un peu arrondi. Merci Fabien pour cette technique, et j'ai un peu débordé. À très bientôt la semaine prochaine, et à demain pour la chronique du dessin. Écriture dessinée.